Bonjour.
Bonjour.
La part de l'organisation des ONIEX, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite le bonjour à cette table ronde qui est consacrée aux sections jeunesse avec comme titre des étoiles pour les enfants. Donc nous accueillons de gauche à droite sur les yeux éblouis Anne Guéraud alias Ange, Alain Brousset alias Alain Brousset et Daniel Martinigol. Alias à la conseil.
Mais ensemble, on est Kim Aldani. Tous les deux, on est Kim Aldani.
Voilà, donc, c'est vrai.
Nous, on est deux, on est trois auteurs à deux.
Le nom de pseudo ici, c'est énorme. Ouais, le nom d'identité secrète.
C'est pour les impôts.
Donc voilà, nous allons parler de la science-fiction pour la jeunesse. Je vais demander à chacun des auteurs de se présenter brièvement, dans un premier temps, et puis on va partir dans le vif du sujet. On commence par Anne.
Bonjour tout le monde, un peu piquant de lire. Je suis donc Anne Guéraud, dont je suis la moitié d'un auteur qui s'appelle Ange, parce que j'écris avec mon co-scénariste qui s'appelle Gérard. Nous sommes principalement scénaristes de BD, mais nous écrivons aussi des romans. En jeunesse, il se trouve que nous avons écrit pas mal de science-fiction, et que personnellement, enfin Gérard aussi, mais il va l'attendre pour lui, personnellement j'adore ça, et je suis tombée dans la science-fiction quand j'avais 13-14 ans, et j'en suis pas sortie depuis.
C'était l'année dernière.
J'étais il y a 3 ans, tu fais peur, là. Et voilà, donc j'aime toujours autant ça.
Alors, moi, je me souviens plus quand je suis tombé dedans maintenant, mais oui, cette science-fiction-là a bouleversé nos vies, je pense, oui. À tous les trois. Et puis, donc, bah, j'écris depuis 25 ans, donc, des romans, beaucoup avec Daniel, seul aussi, avec d'autres auteurs parce que je lui fais des infidélités. Oui. Et puis, voilà, bah, vous êtes. Cette envie de proposer de la science-fiction aux jeunes, de leur montrer notre passion et puis en essayant de la transmettre, voilà le but que l'on s'est fixé.
Bien, alors c'était quand même à l'adolescence, Alain, qui a découvert la science-fiction, toi aussi.
Oui.
Oui. Moi aussi, j'avais 11 ans à peu près quand j'ai lu mes premiers romans de science-fiction. Donc, effectivement, Alain et moi, on a écrit 28 romans ensemble. Donc, je précise tout de suite que ce n'est pas mon mari, il est dans la salle. Ça nous est arrivé multiples reprises. Beaucoup de gens qui pensent qu'on est un couple dans la vie aussi parce qu'on est très, très souvent ensemble. Mais non, nous sommes deux familles amies, nous nous entendons fort bien depuis, effectivement, 25 ans. Et donc, cette relation amicale entre Alain et moi a fait que nous avons publié sans doute plus de romans grâce à cette association que si nous avions travaillé chacun de notre côté, je pense. Ça, on pourra vous expliquer un petit peu plus en détail. Donc, moi, j'étais professeur de français. Il y a une de mes élèves dans la salle, une de mes anciennes élèves. Je suis ravi de voir Élise parce qu'on ne se voit qu'une fois tous les deux ans à l'occasion des Onirics, c'est super. Et donc j'ai toujours inclus la science-fiction dans mon enseignement, dans la mesure du possible. Et puis je faisais des expériences d'écriture longues avec mes élèves. Je ne leur faisais jamais faire de rédaction détachée les unes des autres. C'était toujours des ensembles qui faisaient qu'à la fin de l'année, ils repartaient avec un mini-roman. Et donc tout ça aussi, c'était pour les initier.
Ça se trouve que tu les faisais écrire.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pillé honteusement les idées de mes élèves. Et voilà, on va essayer de répondre à tout ce qui peut vous intéresser sur l'écriture jeunesse en science-fiction. Voilà.
Alors, on va commencer effectivement light, en parlant de mots jeunesse. Savoir quels ont été justement les auteurs en science-fiction en particulier qui ont pu vous faire découvrir le genre et puis vous marquer à jamais, du coup. On commence par toi, Anne.
Alors, je vais répondre une horreur, puisque je vais répondre celui qui m'a fait découvrir la science-fiction, c'est Tolkien. Donc, évidemment, vous savez bien que Tolkien n'est pas un auteur de science-fiction. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un m'a offert Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai dévoré, je ne savais pas ce que c'était génial. Je suis allée à la librairie du coin et j'ai dit, je voudrais quelque chose comme ça. Et le libraire ne savait pas ce que c'était, et d'ailleurs méprisait totalement ce qui s'appelle rapporteur à la littérature de genre, et donc m'a montré ce qu'il pensait être truc pour les gens comme moi, et il m'a montré le rayon Présence du Futur. Présence du Futur étant l'éditeur de science-fiction à l'époque. Et donc j'ai pris au hasard des bouquins, après je les ai pris par ordre alphabétique. Et après j'ai acheté le Stan Barrett, vous vous rappelez, de Hans Six, de la science-fiction, qui était un petit catalogue.
Double.
Et voilà, et donc en fait, j'ai tout lu, mais à l'époque, je sais pas, Spinrad, Slimak, Herbert, Frédéric Paul, Asimov, tout ce qui me passait sur la dent, sans réaliser bien sûr la différence entre la fantasy et la science-fiction, et sans réaliser qu'il y aurait un problème et des luttes entre la science-fiction et la fantasy bien plus tard.
Alors moi, ça a été oui dans l'espace. Non, moi c'était les Bob Moran. J'étais un fan inconditionnel de Bob Moran, donc ça ne dit plus rien aux jeunes, mais bon, aux anciens peut-être, chez Marabout. D'ailleurs, j'ai toujours toutes les collections dans toutes les éditions. Il y avait pas mal d'aventures, mais aussi un pan de la science-fiction avec l'ombre jaune qui se ressuscitait, les grands tués. Et ça m'a intéressé. Puis après, bon, j'ai commencé le Clone Noir aussi. Et puis, avec des livres totalement mauvais, mais qui ont quand même eu l'idée de m'ouvrir vraiment vers ce genre qui m'a passionné. Et puis, cette passion ne m'a plus jamais quitté, quoi. Et c'est vrai que c'était un piège. Piège parce que, bon, il y avait tellement d'autres choses aussi peut-être à découvrir, mais ça fait rien. J'avais tellement envie de soif de cette littérature et de ce qu'elle me faisait découvrir, que donc je me suis mis à fond à l'intérieur dedans, et puis en tant que collectionneur aussi, un intérêt de ces livres-là.
Pour moi, le paradoxe, c'est qu'étant l'aîné du trio, c'est par le cinéma en fait que j'ai découvert la science-fiction. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un grand-père qui était un inventeur et qui était extrêmement porté vers tout ce qui était technologie moderne. Et il a acheté un téléviseur alors que personne n'en avait quasiment. Et alors que j'avais 9 ans, à la télévision, ils ont programmé un film qui s'intitulait « La chose venue d'un autre monde ». Alors donc ils en ont fait un remake qui s'appelle « Le Signe », mais ce qu'il faut voir, c'est le vrai vieux film en noir et blanc, il est extraordinaire. Et donc j'ai une soucoupe volante qui s'écrase au pôle Nord et un extraterrestre, un végétal qui est à l'intérieur, agressif, un végétal agressif. Et puis à un moment donné, ils ont coupé un peu d'un doigt de cet extraterrestre qui était congelé et que, évidemment, un étourdi a réanimé. Et ils disent, il y a un des savants qui dit « Ah, ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, c'est de la sève. » Du haut de mes 9 ans, je ne savais pas bien ce que c'était que la sève. J'ai secoué la manche de ma mère assise à côté de moi sur le canapé familial. Et je lui ai dit, c'est quoi de la sève, maman? Elle m'a répondu, parce que les parents disent des fois n'importe quoi pour se débarrasser de leur gamin. Elle m'a répondu, prise par le film, évidemment, par l'action du film, elle m'a dit, oh, la sève, c'est du jus de carotte. Et à ce moment-là, mes parents ont pris conscience que c'était pas vraiment de mon âge, ce qu'on était en train de regarder, donc ils m'ont envoyé coucher. Ce qui fait que je me suis couchée persuadée qu'il y avait un gugus bizarre avec du jus de carotte dans les veines en train de bouffer tout le monde au pôle Nord. Alors ça ne rassure pas. Et le lendemain, j'ai quand même posé la question au petit déjeuner, qu'est-ce qui est arrivé au gugus hier dans le film? Alors là, ils ont échangé un grand regard qui les a suivis de culpabilité, qui les a suivis toute leur vie, mes pauvres parents, quand ils ont vu que je me lançais dans la science-fiction. Et mon père m'a dit, rassure-toi, il est mort, il a été électrocuté. Or, je ne savais pas bien non plus ce que ça signifiait. Ça ne m'a pas vraiment rassuré non plus. Et 2 ans après, j'avais évidemment bien vite oublié tout ça, mais je suis tombé tout à fait par hasard sur la collection de romans de science-fiction de mon grand-père, le fameux inventeur intéressé par le futur. Et donc, il avait toute la collection du Fleuve Noir Anticipation, et j'en ai pris un au hasard alors que je n'avais plus rien à lire. Parce qu'il faut donc préciser qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de littérature jeunesse, ou si peu. Il y a la bibliothèque rose et la bibliothèque verte chez Hachette, idéale bibliothèque, et c'était à peu près tout. Hein. Et surtout, pas de couverture flatteuse à l'œil pour ces livres-là. Donc j'ai pris un des livres au hasard, et sur la couverture, il y avait un gugus à jus de carotte, c'est-à-dire un extraterrestre avec des tentacules et des gros yeux globuleux. Et j'ai commencé à lire ça en cachette, parce que je me rendais bien compte quand même que je faisais... Strauss-Gressel interdit de lire de la littérature adulte. Et alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai lu le livre en entier. C'est pour ça que quand on dit en tant qu'auteur, il faut absolument que vos lecteurs comprennent tout, je dis attendez, donnez-leur oui-oui, comme disait Alain. Là, ils comprendront tout. Et ça m'a passionné d'emblée. Moi, j'avais 11 ans et je suis resté dans ce bain-là de découverte, d'émerveillement. Après, La Scie, Chien fidèle, Mon ami flicard, les princesses, cette histoire de princesse, de fantômette, tout ça. D'un seul coup, d'avoir des extraterrestres qui attaquaient la Terre, des vaisseaux spatiaux dans tous les sens, ça m'a vraiment...
Ça t'a tellement marqué que tu as fait une thèse sur les monstres.
J'ai fait ma maîtrise, oui, à la fac de Dijon, sur la monstruosité dans la science-fiction. Donc, tout se rejoint, en fait.
Sponsorisé par les vendeurs de carottes.
Attends, je voulais juste.
Quand Daniel parle, ça me renvoie à tellement de souvenirs. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je pense que mes collègues seront d'accord, c'est quand on découvre la science-fiction après le club, moi c'est le club des 5, on va dire, c'est un tel choc. C'est un tel choc, c'est une telle ouverture, c'est une telle. Soudain, on vous parle d'autre chose. Soudain, premièrement, l'univers est immense. Soudain, il y a autre chose derrière la Terre. Soudain, qu'est-ce qu'un être humain par rapport à un robot? Qu'est-ce qu'un être humain par rapport à un extraterrestre? Qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que les gens, même pas les gens, les êtres, les âges, les carottes, peuvent penser différemment? Qu'est-ce que c'est que l'autre? Qu'est-ce que la technologie peut nous apporter? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre société? Je me rappelle de quelqu'un qui avait dit à une table ronde, un jour, quelque part dans un festival amateur, autant dire que ça peut être n'importe qui, que la science-fiction, aujourd'hui la bonne science-fiction, c'était la seule littérature nouvelle. C'était la seule littérature qui apportait des concepts qui n'avaient pas déjà été rebattus un million de fois par les auteurs classiques. Et c'est la seule littérature qui va nous montrer des sociétés qui n'existent pas, qui va nous parler de ce que ça serait qu'être une intelligence artificielle, de ce que ça serait. Et quand on est enfant et qu'on découvre les monstres à jeu de carottes, je pense qu'au fond, on a l'intuition de ça. On a l'intuition qu'on a touché quelque chose qui est entièrement nouveau et qui va nous changer la vie pour toujours. Et visiblement,
c'est quand même la seule littérature où les femmes sont dévorées par des monstres, alors qu'elles hurlent comme ça.
Avec des décolletés.
Oui.
Avec
des
décolletés. Mais c'est vrai, c'est ce côté flash qu'on peut avoir, je le compare, je pense qu'il y a des gens qui d'un seul coup découvrent la foi et qui sont capables de rentrer dans un monastère. On a l'impression d'être des élus, je ne sais pas, d'un seul coup, il y a le doigt de quelque chose qui nous touche, et à ce moment-là, on est parti dans cette secte, j'allais dire, parce qu'on ne veut plus en sortir, et voilà. Après, on essaie de remettre au service les autres, donc c'est pas totalement négatif.
Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, en tout cas, à mon époque, moi, c'était une littérature qui n'était absolument pas considérée comme étant une littérature, justement. Quand j'ai commencé à lire les romans de mon grand-père en cachette, je sentais bien qu'il y avait quelque chose au-delà simplement du fait que c'était des romans pour adultes, mais qui n'était pas normal. Je lis ça à 11 ans. Et d'ailleurs, quand il est passé dans mon dos un jour que je lisais sous les platanes de la cour, il y avait une chance extraordinaire, nous avions des protège-livres, moi, à mon époque, des beaux protège-livres en cuir. Moi, j'en avais un avec un Delves écrit Souvenirs des Alpes. Et je pouvais mettre n'importe quoi à l'intérieur. Tout le monde me foutait une paire royale. Du moment que je lisais. D'ailleurs, j'ai toujours conseillé à mes jeunes lecteurs, s'ils veulent avoir de la paix, de prendre un bouquin. Parce que même à la limite, s'ils s'endorment plus ou moins dessus, les parents, d'un seul coup, autour d'eux, tous les adultes, qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Où elle est? Elle lit. Et alors là, c'est presque, on est prêt à y mettre un cierge dans la première cathédrale venue, parce que enfin l'enfant lit. Et moi, mon fichier la paix. Et mon grand-père est passé derrière moi, il a vu ce que je disais. Qu'est-ce que tu lis, ma chérie? Un livre, bébé? Et puis bon, il a bien connu, il m'a dit, mais c'est un livre, ça. Il m'a dit, mais c'est la science-fiction. J'ai compris, c'était quand même écrit sur la couverture. Alors, il m'a dit, mais c'est pas pour toi, ça. C'est pas pour les jeunes, et surtout, c'est pas pour les filles. Et donc, voilà pourquoi j'ai écrit 40 romans qui sont tous pour les jeunes et qui sont tous pour les filles. Comme quoi, quelquefois, il y a des détonateurs dans l'interdiction qui sont intéressants. Et mes profs m'ont dit la même chose. Hein. C'est ça qu'il faut voir. En fait, moi, mes enseignants me disaient, ah non, mais Daniel, il ne faut pas lire ça. Vous faites des études littéraires. Il y en a même un jour, une dame d'ailleurs, qui m'a dit, ça va vous empoisonner l'esprit. Et effectivement, j'ai été empoisonné. Mais c'est la grande différence avec les jeunes d'aujourd'hui, pour revenir à la, au sujet finalement de la table ronde, voilà, des étoiles pour les jeunes de nos jours. C'est que de nos jours, dès l'école, on leur propose de lire de la science-fiction, on leur propose de découvrir ces littératures de l'imaginaire. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du genre, ils arrivent à faire leur propre choix par rapport à ce que leurs enseignants, leurs parents, les gens qui sont là pour les conseiller dans leur lecture, pensent être le mieux pour eux. Par exemple, je me souviens très bien de l'effet chair de poule, hein, la collection chair de poule, les enseignants, les bibliothécaires, les documentalistes disaient non, il ne faut pas faire lire ça aux gamins, il y a de bons livres d'imaginaire, mais ça non. Or, c'était ça que les jeunes voulaient lire, et c'est ça qu'ils lisaient plus ou moins en pochette.
À notre époque, le Club des Cinq, c'était interdit, il fallait lire La Comtesse de Ségur.
Il y a eu le même phénomène avec le livre dont vous êtes le héros. C'est pareil, on disait c'est pas de la bonne littérature, on disait il ne faut pas lire ça. Et quand on commençait les films avec les dystopies, Divergente, Hunger Games, etc., il y a aussi plein de voix qui se sont élevées en disant mais c'est très négatif, c'est des combats, etc., il ne faudrait pas présenter ça à la jeunesse. Or justement, c'est ça qu'ils ont envie de voir et de lire. Donc c'est exactement ce que disait Anne, c'est une littérature de transgression en fait, hein. on passe vers autre chose, et tant mieux, c'est ce qu'il faut qu'elle reste. Hein. Le jour où elle sera complètement institutionnalisée, enfin bon, vous rendrez mon tablier.
Alors, Daniel a un peu anticipé sur ma question suivante.
C'est ma spécialité, l'anticipation.
En fait, je voulais savoir quelle avait été l'étincelle qui vous a permis les uns les autres de mettre à écrire, en particulier pour la jeunesse. Donc Daniel, on a déjà un petit peu parlé, on va voir ce qu'on pense à l'un.
Je ne peux pas en dire à l'un.
C'est la boisson. Non, c'est l'achat d'un ordinateur. Finalement, parce que j'étais tout content de montrer à Daniel que j'avais dépensé une fortune en achetant un Apple IIc avec 128 K de mémoire. Un haut fait de la technologie de l'époque avec une imprimante à aiguille Queenez, mais qui n'écrivait que la moitié des lettres. Il fallait attendre le retour pour savoir ce qui avait vraiment été écrit. Et donc j'ai présenté ça à Daniel, qui effectivement a été très impressionné, parce qu'il n'y en avait pas encore. J'avais doublé sur la... avec un écran magnifique. Grand comme ça, orange, pour se piquer les yeux à savoir ce qui avait été écrit. Et donc du coup, j'ai dit, regarde, c'est génial, c'est justifié, ça se justifie à droite et tout. Et donc, et j'ai commencé à écrire 3-4 lignes pour rigoler, parce que j'avais une idée de la titre, c'était la phrase « Le soleil s'est couché bien tard ce soir-là ouais, ». Hein,
oui.
Et puis, ce que je me suis aperçu, c'est que moi qui tapais comme un très bon commissaire de police avec mes deux doigts, je me suis trouvé...
Je lui ai donné coup de coude,
pousse-toi. Et puis là, d'un seul coup, tous ses doigts sont mis à... Parce qu'elle était une parfaite secrétaire, déjà. C'est-à-dire, c'était le plan B, si elle n'était pas prof, elle a été secrétaire. Donc, elle avait appris à taper avec ce coup de doigts. Et donc, elle a continué sur une page, parce que c'est un robinet à écriture, alors que moi, je... Une fois un temps infini, elle, ça crache, elle m'énerve, je l'appelle Piscopie. Et, donc du coup, après elle est repartie, donc moi je suis resté avec ça, et du coup j'ai continué, je lui ai renvoyé, elle a continué, on a fait une première nouvelle, et sans rien dire, j'ai pris cette nouvelle et je l'ai envoyée à Fiction, et Fiction l'a pris, elle a publié, donc, après je l'ai mis sous le nez, là, donc voilà. Et puis après, bon, comme elle était prof, comme vous le savez, tous les profs ont énormément de vacances, donc du coup... Elle s'est mise à écrire un roman qui a été accepté donc, par Hachette. Et puis du coup, moi je me suis dit, je ne suis pas plus bête qu'elle, qui est y arriver, pourquoi pas moi. Donc là aussi, j'ai fait un livre pour le prix du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je l'ai envoyé le dernier jour, la dernière heure par chronoposte. Et puis donc j'ai eu la chance qu'il soit pris. Et puis en même temps, pris par Hachette. Voilà. Là aussi, j'ai réussi à tenir ma langue et à lui faire la surprise que nous étions...
C'était difficile de tenir ça, la regarde.
J'ai le même éditeur. Et donc, quand je suis arrivé, l'éditeur a dit, bon, alors, on a discuté un moment, il m'a fait signer le contrat et tout, il a dit, bon, maintenant, je vais lire le livre. Ça m'a un petit peu interloqué, voilà, il m'a pris le livre, puis après, il l'a lu. Et bon, c'est là que j'ai compris qu'il y avait des lecteurs professionnels et tout ça. Tu veux rebondir?
Comment je me suis mis à écrire de la jeunesse, parce qu'un éditeur m'a demandé. Et je pense que je ne connaissais vraiment pas assez de milieu pour réaliser que des collections jeunesse, enfin ce genre de choses. Ce qui est toujours un bonheur pour moi, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de romans jeunesse, et ça donne envie de m'y remettre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté dans les romans jeunesse que dans les romans adultes. Alors évidemment, on ne va pas parler de sexe et de violence, mais les 8-12 ans, par exemple, bon alors ça c'est précis, après il y a des romans pour plus jeunes et il y a des romans pour les young adultes, c'est pour les 8-12 ans, on est dans une période bénie qui est qu'ils sont capables de suivre un scénario complexe, avec des rebondissements, des méchants, des secrets, des intrigues, mais ils sont capables complètement de se laisser, c'est encore des minots quoi, et ils sont complètement encore capables de se laisser emporter dans un délire, dans un truc d'imaginaire, dans un truc qui soit un peu le conte, et donc on peut mélanger des manières d'écrire très différentes. Il y a des choses dans un roman adulte que les adultes ne vont pas suivre. Si on leur dit, ben, soudain le héros voit une feuille morte et il se dit, oh la feuille morte veut m'emporter quelque part, je la suis, dans un roman adulte, c'est pas possible. Enfin, ou alors dans des circonstances très précises.
Une feuille d'impôt.
Si on met dans un roman, je sais pas, un gamin, quand on veut un conteur qui lui a dit que les feuilles mortes écrivaient le destin sur les trottoirs, et qu'il sort, il voit une feuille morte et qu'il la suit et que ça l'emmène dans l'histoire, oui, un gamin de 8-10 ans, il va suivre ça.
Ils sont bon public, quand même.
Je sais pas, c'est pas que mon public, c'est. Ils sont encore dans un monde un peu magique. Et donc du coup, on peut faire des trucs assez délirants. Alors là, je vous donne un exemple de fantasy ou de conte, mais on peut mélanger les genres et on peut jouer sur. Sur un délire qui ne sera pas suivi par les adultes.
Je vais rebondir sur l'idée de bon public.
Moi, quand j'ai présenté mon manuscrit d'or bleu chez Hachette, donc celui qu'évoquait Alain, il s'est passé quelque chose d'assez étrange à propos de ce manuscrit. C'est que j'ai rencontré le directeur de collection qui m'a cuisiné, mais littéralement cuisiné, en posant des questions pendant 2 heures. Et à la fin, il m'a dit, je vais le lire. Et lui, il lui avait pris le sien du premier coup sans le lire, parce qu'il avait eu le grand prix du ministère de la Jeunesse, en fait. Hein. Et il savait qu'il y avait déjà plein de gens qui avaient apprécié le roman. Moi, ce n'était pas le cas du tout, j'étais absolument pas connu. Et donc, il me dit, rappelez-moi dans 6 mois. 6 mois après, je retéléphone. Il me dit, ah, j'en suis à la page 60. Parce qu'il faut savoir quand même qu'Hachette, ils reçoivent au moins 1 ou 2 manuscrits par jour. Alors, ils en publient, à l'époque, ils en publiaient à peu près 40 par an. Ça fait un écrémage énorme. Il me dit, retéléphonez-moi dans 1 mois. Je vous jure, 1 mois, jour pour jour, après, je téléphone. Et il me dit, il faut revenir me voir. Et là, il commence à me recuisiner pendant un bon moment avec plein de questions. Et il me dit, vous savez qu'on reproche à votre roman d'être une bluette sentimentale. Alors la bourguignonne que je suis a senti la moutarde lui monter au nez d'un seul coup, et j'ai dit, écoutez, j'ai fait exprès d'écrire un roman de science-fiction qui soit en même temps un roman d'amour, parce que quand j'étais jeune, je lisais des romans de SF d'un côté, des romans d'amour des femmes de ma famille de l'autre côté, et je m'étonnais toujours qu'il n'y ait pas la même chose dans les... Enfin, que ça ne se mélange pas dans un seul type de roman. Et je lui dis, vous me dites, si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, tant pis, mais il faut me donner une réponse, là. Et là, il a fait un grand sourire très, très spécial, parce que Laurent David, le directeur de la collection du livre de poche jeunesse chez Hachette, à l'époque, était vraiment un personnage qui nous a lancés tous les deux et qui était vraiment quelqu'un qui était exceptionnel. Il n'aimait pas la science-fiction, il faut le savoir, mais il nous a lancés tous les deux. Mais il était parfaitement conscient que c'était un genre qui serait porteur. Et il m'a dit, voilà ce que j'attendais. Je lui dis, vous attendiez que je me fâche? Et il me dit, exactement. Alors, je lui dis, ça, vous auriez pu me le demander plus tôt, avec mes classes, j'ai l'habitude. Il m'a dit, j'attendais que vous défendiez votre roman, parce qu'il m'a dit, il est tellement bon qu'on était persuadé que c'était, ça ne pouvait pas être un premier roman, et que vous n'étiez que le prête-nom de quelqu'un. Et il m'a dit, et il n'y a que l'auteur qui est vraiment capable de défendre son manuscrit. Il me dit, là, vous venez me prouver que vous êtes bien l'auteur. Alors je lui dis, mais pourquoi? Enfin, je ne comprenais pas. Il m'a dit, vous allez aller devant le public le plus intransigeant qui soit, à savoir le public jeunesse. Il m'a dit, et les jeunes, quand ils n'aiment pas, eux, ils disent, j'aime pas. Les jeunes, s'ils vont trouver votre roman nul, ils vont dire, votre bouquin, il est nul. Ça m'est arrivé, hein, moi, plusieurs fois, en rencontre avec des classes, d'avoir ce genre de choses. Il m'a dit, vous allez avoir des telles surprises avec le public jeunesse, qui est un des publics qui va vous enthousiasmer, qui va vous passionner et qui va vous dire vos quatre vérités s'il le faut, que je veux absolument que mes auteurs soient capables de défendre leur texte et elles répondront en face. Donc oui, ils sont bon public, comme disait Alain, mais ils sont extrêmement critiques aussi. Quand ils ont quelque chose qui ne les emballe pas, qui ne les embarque pas, comme la petite feuille morte d'Anne, il n'y a rien à faire. Hein. Et moi, mes grandes victoires, c'est d'être arrivé à en embarquer qui ne voulait pas suivre la feuille morte, justement. J'en ai un jour qui est venu en fin de rencontre avec quasiment agressivité, me dire « Bon, je l'ai lu jusqu'au bout, votre bouquin. » Alors, je dis « Merci, c'est gentil. » Il me dit « Ouais, mais... Bon, enfin, je l'ai lu jusqu'au bout. » Alors, je lui dis « Mais tu t'es forcé. » ?»« Ah ben non, justement, je ne me suis pas forcé. » Alors, je lui dis « Ah, tu avais la réputation du non-lecteur, toi. » C'était celui qui disait « Moi, je ne lirai jamais de roman. » Elle me dit « Oui, c'était un peu ça. » Alors, il me dit « Ça, je ne pouvais plus le lâcher. » Voilà. Et quand on a des jeunes lecteurs qui disent ça, je conçois qu'Anne, qui n'aurait peut-être pas écrit depuis un moment, se dise « Tiens, ça me donne envie d'y retourner. » Parce qu'aller au contact du public jeunesse, oui. Et puis, c'est vraiment très, très intéressant. On a des réflexions. Alain et moi, un jour, on est intervenus à l'ODEV, je me souviens, devant des petits-enfants de primaire. Et puis, il y avait deux classes en même temps. Et ça durait assez longtemps, 2 heures, pour des petits de CM1, CM2. C'était avec notre série Carrie et Meghan, qui est adaptée chez Nathan. Il n'y a plus que le premier tome maintenant, à Les Manches Forêt. Et puis, on a répondu à plein de questions, on a raconté plein de choses. Et le soir, nous dînions avec les enseignantes. Et avant de quitter les enseignantes, elles avaient dit on ferait bien un petit prolongement, là, parce qu'on va les revoir cet après-midi. Et j'ai dit, bah écoutez, c'est la bonne prof qui reprend le dessus. J'ai dit, vous leur faites prendre un petit papier, puis vous leur faites écrire la phrase qu'on a dit pendant l'intervention qui les a le plus marqués. Il faut dire qu'à un moment donné, comme il y a des animaux dans le roman, les enfants nous avaient demandé si nous-mêmes nous avions des animaux. Donc moi j'avais dit que j'avais un chat qui s'appelle Elis, E-L-I-S, en fait, mais qu'on aurait dû écrire son nom H-E-L-I-C-E, parce qu'un jour il allait sauter par la fenêtre, les quatre pattes écartées. Et Alain avait dit, tu te rappelles, que tu avais des taupes dans ton jardin et que ces chiennes ayant une tendance en petites chiennes de chasse, quand ils pouvaient sauver une des taupes, ils les balançaient dans le jardin pour les sauver la vie. Et alors le soir, des institutrices arrivent, on avait parlé du roman, de science-fiction, d'écriture, de tas de choses. Et la seule chose que les gamins avaient marqué, c'est Daniel Martinigol a un chat qui saute par la fenêtre et Alain Grousset jette les taupes chez son voisin. Donc ça, c'est absolument... Et à côté de ça, ils étaient enchantés de la rencontre, mais il y avait des phrases, il y a toujours un souvenir qui leur reste comme ça, de même que nous, il nous reste aussi des souvenirs extraordinaires. Moi, je suis rentré devant un groupe un jour, un gamin dit « Oh, c'est une nana !» Alors, son voisin de classe à côté lui dit... Alors, j'ai ralenti volontairement. Son voisin de classe lui dit « Tu croyais qu'on allait voir qui, toi ?» Il dit « Je croyais qu'on voyait Marcel Bagnol. » Alors je dis « Ah non, moi c'est Martinigol. Ça commence par Mar, ça finit par Ol. » Mais c'est pas écrit la gloire de mon père.
Alors effectivement, quand vous avez commencé à lire, et même quand vous êtes lancé un peu dans l'écriture, il y avait encore peu de littérature jeunesse consacrée à la science-fiction. Or maintenant, c'est une sorte d'âge d'or dans l'imaginaire, on va dire, pour les enfants et les adolescents. Comment, d'après vous, ils arrivent maintenant à faire le tri, justement, dans cette offre qui est pléthorique? Parce que maintenant, dans les librairies, dans les bibliothèques, il y a des rayons entiers consacrés à la littérature jeunesse.
Voilà, aucune idée. Aucune idée, je pense que, c'est comme tout, c'est le bouche-à-oreille, c'est les copains, c'est les blogs, c'est le forum 15-18, c'est... je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas du tout. Mais comment nous, on achète des livres? On achète des livres par recommandation, on achète des livres parce que des gens qu'on aime et donc auxquels on fait confiance nous les ont recommandés, ou des gens sur les réseaux sociaux auxquels on fait confiance, même si on ne les aime pas, qui nous les ont recommandés. Un libraire, parfois, pour les gamins, ça doit être vraiment... vraiment les copains, je pense, fortement.
Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Tant mieux.
Ouais. Beaucoup aussi l'influence du cinéma et de la télé,
oui.
Les séries télé, les films. C'est vrai que les films avec les moyens techniques maintenant, d'effets spéciaux, etc., sont absolument fabuleux. Pour moi, j'écris principalement du space opéra, c'est-à-dire les fameuses histoires qui se passent avec des vaisseaux spatiaux dans les étoiles, etc. Quand j'interviens dans mes enfants, si je leur pose certaines questions sur de... Bon, j'ai pas toujours des réponses. Si je veux tous les doigts se lèvent, je leur demande qui a vu Avatar. Mm-hmm. Là, je suis tranquille, tout le monde le doit. Et donc, à partir de là, oui, il y a beaucoup de copains. Il y a aussi un gros travail de leurs enseignants et de leurs documentalistes.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai que, autant autrefois, comme je disais, c'était une littérature à écarter, autant de nos jours, pour amener les enfants à la lecture. Et alors, je m'insurge tout de suite contre le fait qu'on dit que les enfants ne lisent plus, ne lisent pas, etc. C'est faux. Statistiquement, il y a de plus en plus de jeunes qui lisent. Parce que justement, ils ont la possibilité, avec les médiathèques comme ça, enfin c'est génial, en pleine ville, ils peuvent venir, les CDI dans les collèges, les livres qui sont en série lus dans les classes, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui lisent. Hein. Il y aura toujours une petite portion réfractaire, comme mon gamin qui disait, bon, j'ai dit que je ne serai jamais un lecteur de romans, mais il y a énormément de jeunes lecteurs. Il faut simplement qu'il soit conseillé quelquefois pour trouver le bon déclic, les bons premiers livres.
On va maintenant aborder un aspect de vos travaux respectifs, puisque c'est un point commun entre vous. Vous travaillez chacun de votre côté, mais aussi en duo. Donc j'aimerais savoir comment effectivement vous travaillez les uns et les autres. On va commencer par Anne qui ne représente qu'une moitié d'auteur pour le coup, mais voilà, donc j'aimerais avoir ton sentiment sur ton expérience sur la question.
Sur comment travailler à deux ?
Ouais.
Pour la jeunesse en particulier, bien sûr.
Damien. laissez-moi réfléchir. Il faut que je passe à mes petits copains. Parce que je cherche une spécificité jeunesse, si tu veux. C'est pour ça, pour la réponse.
Écrire à deux, c'est jamais écrire jamais ensemble. Déjà, on est déjà à 400 km l'un de l'autre, mais bon, il y a le téléphone. Et là, on passe quelques heures. Alors après, comme on est tous les deux des structurants, c'est-à-dire qu'on a envie de tout connaître avant de commencer l'histoire, on se la fait ensemble, on se la monte ensemble et tout. Et une fois que ça s'est construit, après, il n'y a plus de difficulté à écrire seul. Ça peut être en quinconce, c'est-à-dire un chapitre, l'autre, et en alternance. Mais ça nous est arrivé que, bon, bah, moi je dis, tiens, je prends cela parce qu'il y a de la bouffe et de la bagarre, et puis je te laisse cela parce qu'il y a des sentiments, et tu seras bien plus fort que moi. Donc voilà, on écrit, on peut écrire un désordre, puisqu'on sait exactement où on va, et on suit un plan prédéfini, ce qui ne nous empêche pas de quelques petites libertés au passage, mais ça... Donc voilà, c'est écrire un ordre, c'est accepter l'intrusion de l'autre dans ce que l'on écrit, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des auteurs, c'est un viol, quoi. Voilà, c'est tellement personnel ce qu'ils font, qu'ils ne veulent absolument que personne de mettre leurs yeux dessus. Et accepter aussi le fait qu'on ait une idée et que l'autre dise bon, et hop, tout de suite elle est au panier, on se pose pas la question, il n'y a pas de ressentiment en disant elle est bête, elle ne comprend rien de ce que je veux dire. Non, c'est puisque tu n'en veux pas, et réciproquement. Donc il y a tout un mécanisme qui se met automatiquement, il y a presque une écriture conjointe, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que quelque part, on n'écrit pas tout à fait pareil lorsqu'on est seul que lorsqu'on est ensemble, et on retrouve nos automatismes. Encore cet été, on a refait Noël et tout, ça a coulé comme si on n'avait pas, alors qu'on a arrêté un petit peu d'écrire ensemble pendant un petit moment, mais non, on a retrouvé nos mêmes automatismes, voilà. Donc c'est un plaisir de mettre nos deux imaginaires en commun, et de penser que nos deux imaginaires en commun vont plus loin que notre propre imaginaire seul.
Oui, parce que quand on a des idées seules, quelquefois, on est presque capable de s'auto-censurer. Par exemple, quand on a un exemple concret, quand nous avons créé le synopsis du petit roman Les Manches Forêts, par M. Nathan, Anna me dit, je ferais bien quelque chose sur une planète entièrement forestière. Je dis, ok, ça va bien avec ma fibre écolo, tout ça. Et on me dit, mais attention, c'est une forêt un peu particulière. Quand on coupe un arbre, une heure après, il est repoussé à la même hauteur. Alors, un petit temps de silence au bout du fil, parce que ça se faisait au téléphone. Et je lui dis, ça va pas être facile de faire des routes. Alors, il me dit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Il raccroche, il me rappelle une demi-heure après. Il me dit, bon, alors, il y a des chenilles qui se déplacent à la surface de cette planète et qui mangent les arbres et qui font des trouées dans les forêts. Une chenille, c'est à peu près cette taille-là. Donc, je lui dis, des chenilles. Il me dit, oui, des grosses chenilles. Alors, là, je capte un peu mon imaginaire à 1,50 m. Je lui dis, non, mais je vois pas comment des chenilles pourraient manger la forêt. Mais t'as pas compris, c'est des grosses chenilles. Alors, donc, on y va carrément à la largeur de la pièce. Et je dis, je vois toujours pas. Il me dit, écoute, ce sont des chenilles grandes comme des TGV. Ah, là, ça, oui, ça commence à causer. Là, quand même. Donc, quand vous avez un copain qui vous dit, on va écrire une histoire sur une forêt où les arbres repoussent en une heure, avec des chenilles grandes comme des TGV qui font des trous dedans, vous avez deux solutions. Vous vous dites, c'est l'heure de sa piqûre, ou alors vous vous dites, bon, ben, il faut rebondir là-dessus maintenant. Et on a construit, voilà, comme il disait, en déstructurant, on a construit l'histoire des manches forêts à partir de cette idée-là. Et voilà, ça fait... Ah oui, alors oui, il y a l'histoire du papillon. Oui, c'est-à-dire j'ai ajouté, moi, mais attention, les chenilles, ça se transforme en papillon. Et là, il m'a dit, ah merde, j'avais pas pensé au papillon. Alors, et là-dessus, il a ajouté, ah oui, mais ça, du coup, ça va faire des gros cocons. Bah, oui, ça, c'est sûr. Ah, il m'a dit, ah si, ça fait des gros cocons, on mettra des gens dedans qui habitent dans les cocons vides une fois que les papillons sont partis. Voilà, et voilà, le roman s'est construit comme ça. Et il y a eu 250 000 exemplaires vendus quand même. Alors donc, des fois, il ne faut pas se brider. Hein. Laissons partir notre...
Il faut juste la bonne herbe.
C'est ce que je voulais dire. Déjà, j'adore cette histoire. Parce que ça, c'est la création de l'univers. Quoi. Ça, c'est vraiment un boulot de brainstorming et de création de l'univers. Je donne des cours de scénario de BD. Par ailleurs, et des ateliers de développement de projet, et ça, c'est génial, et ça, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, de comment on fait, comment on bouge les uns des autres, et comment... Il y a une technique de brainstorming dans le management, où on n'est pas censé dire non, où on n'est pas censé dire mais, c'est-à-dire que quelqu'un donne une idée, même si on est complètement folle, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de dire mais, par contre, ce qu'on peut, c'est rebondir dessus. Et cette technique pour la création, elle est géniale, et là, la création d'univers comme ça, c'est un bonheur, quoi. Non, alors, j'ai réfléchi à le travail à deux pour la jeunesse, tout ça. Alors, j'ai deux réponses. Pour les romans jeunesse, je réalise en t'écoutant que je ne travaille pas à deux. C'est-à-dire que, pour moi, le roman jeunesse est quelque chose d'extrêmement personnel et complètement dans l'émotion. Et donc, Gérard et moi, on a une idée, nous deux a une idée, on discute de l'idée, etc. Et après, l'autre écrit, et quand c'est moi qui l'écris, je passe les touches. Voilà, il y a un truc. Comme tu dis, c'est un viol. C'est-à-dire que pour moi, le roman jeunesse est beaucoup plus intime que le roman adulte. Il est vraiment plus. C'est-à-dire qu'en fait, les adultes, j'en ai rien à péter. C'est des grands. Mais tandis que les enfants, il me semble que je me projette complètement dans le personnage, dans les personnages. Dans, c'est des romans où la narration est très interne au personnage, avec un seul point de vue, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres romans. Et là, je ne voudrais pas donner de chance. C'est une construction très, très dans l'émotion. Par contre, BD jeunesse. Alors là, BD jeunesse, c'est autre chose. BD jeunesse, c'est autre chose. Et BD jeunesse, on a donc deux interlocuteurs. Moi, j'ai mon scénariste, mais il y a aussi le dessinateur. Et quand on crée un univers, justement, de science-fiction, de fantasy, on touche à un univers graphique. Et là, on est là-dedans. Là, on est dans la grosse chenille, le coco, etc., etc., avec des dessinateurs qui vont avoir un univers complètement différent, parce qu'ils ont un univers graphique, donc ils vont délirer sur ce qu'on va dire, qui vont renvoyer des mails avec des créatures, et nous vont dire « Ah ouais, cette créature !» Mais donc, c'est exactement l'histoire de « Bon ben, puisqu'il y a des gros cocons, les gens vont vivre dans les cocons. » C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, à Laurent Cagnat, qui est le dessinateur de la série de Living, « Je voudrais un monde qui a été infiniment petit et infiniment grand. » C'est un monde où il y a des géants, donc il y a des livres de géants, mais avec des mini-créatures qui vont donc vivre dans les poubelles des géants, maisons, etc. Et lui, il part sur... Il m'envoie des croquis, et on délire sur les croquis, et du coup, la création de l'univers, comme Daniel et Alain viennent de le décrire, se fait à toute vitesse, et ça, c'est... Quand ça marche, c'est génial, quoi. C'est vraiment...
Oh, lui écrire. Mais il y a deux auteurs qui étaient mariés, les Grimaud, qui ont disparu malheureusement. Mais eux, dans leur technique d'écriture, ils inventaient une histoire. Chacun écrivait le livre, mais séparément. Une fois que chacun avait fait ça, il relisait le livre de chacun, et il prenait le meilleur, ce qu'il jugeait le meilleur des deux, et ça devenait le troisième livre. Voilà. Donc il ne faut pas être pressé, quoi, c'est ça, mais ça fonctionne aussi. Voilà.
Et puis ça donnait quoi, les romans?
Le tyran d'Axilan, c'est un roman absolument extraordinaire.
Il n'y a pas deux styles différents et on voit que ça claque.
Non, bah, c'est comme nous, hein. Ouais. Dans les Manches Forêts, par exemple, celui de l'Ordre du Chien. Moi, j'ai fait les cinq premiers chapitres, Alain a fait les cinq suivants, j'ai passé la brosse à reluire, comme j'appelle ça, sur l'ensemble.
D'accord.
Mais je ne sais pas, on doit pouvoir encore trouver au moins d'occasion le tyran d'Axilan de Michel Grimaud, parce qu'il signait sous le nom Michel Grimaud, hein, masculin. Mais il y a une idée absolument extraordinaire, une sorte de roche qui est venue de l'espace. Et quand on fait fondre ça, au bout de la flèche, on met un petit peu de cette espèce de magma au bout de la flèche, on tire avec un arc. Ça se solidifie et ça fait un fil sur lequel le funambule qui va marcher dessus va remonter le temps. C'est quand, à chaque fois que je pense au tyran d'Axilan, je me dis mais pourquoi j'ai pas eu cette idée là moi-même. Il y a des idées comme ça qu'on trouve chez les autres qui sont d'une beauté poétique, etc. Et c'est un roman que j'ai souvent fait étudier à mes classes.
On se souvient quasiment plus qu'on a écrit finalement dans la vie.
Oui, nous, quand on regarde un de nos romans écrits en commun, on n'est plus capable de dire ça c'est moi qui l'ai fait ou ça c'est moi qui l'ai fait.
Sauf la bouffe et les sentiers.
Oui, à la fin du Manche Forêt, le héros retrouve ses parents, Alain avait écrit, et alors, Terrible retrouva ses parents. Ouais, bah, terminé. J'ai un peu de sentiment, il les cherche depuis quand même 80 pages. Bon, donc. Il dit, écoute, fais ça, toi. Donc, l'émotion maternelle de la maman en retrouvant son petit garçon, etc. Et voilà, bon, justement, dans les cocons, là, c'est du Martinigol. Mais les repas, c'est lui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il l'explique. Il dit que quand il lisait de la littérature jeunesse...
Oui, moi, j'avais la dalle au lit quand je lisais le soir. Les héros mangeaient, j'avais faim, quoi. Donc, je me suis juré de faire manger tous mes héros. J'ai l'impression de les rendre plus vivants, quoi, s'ils ne mangent pas. Je ne leur fais pas faire pipi caca, mais des fois ça me démange, parce que je me dis, la scène, là, ça fait 8 heures qu'ils sont enfermés dans un truc et tout. Enfin bon, jamais personne. Les gens, ils sortent net, rendent les gens les plus vivants, parce que c'est des gens. Une fois qu'on a arrêté une série, moi j'étais malheureux parce qu'ils avaient partagé une dizaine d'années. On faisait un parent à peu près une dizaine d'années avec nous, on les connaissait, ils étaient de la famille, on savait comment ils réagissaient et tout. Et d'un seul coup, le fait que ça ne soit plus publié, c'était un enterrement. Enfin, mais on les tuait, quoi. Donc, ça, c'était assez dur.
Est-ce que je peux vous... pour la nourriture, tout à fait. En fait, du coup, tu me fais réaliser que tout ce qui est kinesthésique, très important dans un roman qui est saisi, je veux dire, voilà. C'est-à-dire, je mets mon héros dans un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial, c'est froid, c'est métallique, on imagine des schémas de couleurs à la Star Trek et ça n'a pas de chair, ça n'a pas de dynamité. Vous mettez le même héros et il va prendre un café dans l'espèce de petit truc où la distributeur de café marche vaguement et ça sent un peu le café et le café ici, elle n'arrive pas complètement à le réchauffer. Déjà, on lui fait dedans. Ouais. Et la vieille merde. Avec un peu d'acide qui tombe. Bon. Et déjà là, on voit plus déjà le truc. Puis ensuite, le héros, il a froid, et il cherche à s'habiller, mais il a encore froid. Et je pense que les sentiments corporels, donc le kinesthésique, c'est très important et peut-être encore plus important dans un roman de science-fiction, ou surtout jeunesse, où on pourrait être trop détaché des personnages, et ça sera une manière de faire sentir, regarder ce monde du vrai. Là, le mec, il a froid, puis. Le mec, il prend son sandwich à la cafétéria, et le sandwich est dégueulasse, il ressemble à un sandwich SNCF, et on a tous vécu ça, et on va se projeter en fait.
Je me demandais justement si vous aviez des interdits quand vous écriviez pour la jeunesse, s'il y avait des choses dont vous ne souhaitiez absolument pas parler, ou si justement c'était pour pour vous l'occasion d'amener certains sujets sensibles de façon un peu, un peu pédagogique. Daniel est là.
On n'est pas des moralistes à tout craint et à mettre des choses. On a chacun nos propres valeurs, une vision de la vie, et forcément ça transpire lorsque l'on met en scène nos propres héros qu'on a inventés, bah forcément on les fait fonctionner par rapport à nos propres valeurs. Donc c'est ça, voilà pourquoi les auteurs écrivent toujours le même livre, puisqu'ils font passer toujours la même valeur. Ensuite, le sexe, bon, j'ai écrit avec Suzy Morgenstern une histoire qui s'appelle Tout amour et extraterrestre. Il y a des scènes un peu... chaude, il y a encore une documentaire qui est venue me voir, il dit ah, je me faisais une joie et tout, je l'ai lu. Et alors, il est dans un endroit un peu spécial du CDI et je ne le donne pas à tout le monde, je veux dire. Voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était Suzy qui a fait toutes les scènes très hard. Par contre, moi, il y a tout un chapitre sur l'épilation des jambes et c'est moi qui m'en suis occupé. Et avec les différentes sortes de tout ce qu'on pouvait faire. Et je suis très fier de ma documentation. Et je m'en suis pas trop mal sorti là-dessus. Mais non, pas vraiment interdit, mais on est là. Le bon sens, tout simplement le bon sens. Enfin, je veux dire, on va chercher à choquer et tout. S'il y a des scènes un peu plus osées, c'est parce qu'elles ont besoin d'être là. Et là, c'était pas gratuit non plus, puisque là, en gros, l'histoire, c'est une histoire de changement de sexe. Une fille qui est sans le savoir, donc comme son père est un extraterrestre, le découvre déjà, c'est dur à avaler, mais en plus, on lui dit qu'à l'adolescence, bah, c'est normal, dans cette race-là, on change de sexe pour comme ça connaître les deux sexualités. Donc elle, ça nous fait penser, donc le transgenre, ça fait penser aussi à l'homosexualité parce que sa meilleure copine et tout de suite elle tombe amoureuse complètement de ce beau gars qui est transformé. Le petit copain de la fille comprend pas qu'il est très attiré par ce garçon, donc se pose de grandes questions existentielles. Donc voilà, on traite de ce sujet-là à travers un roman rigolo et de science-fiction, un sujet grave, mais n'empêche qu'on le traite, mais on le traite à notre façon. Il faut que le romanesque soit là, que ça soit facile à lire et que ça donne envie, mais voilà, on ne s'est pas dit au départ, bon, alors on va faire un livre sur le transgenre, et puis on va... Non, c'est comme ça que ça se passe.
Moi, j'ai jamais eu à gérer de problème de scène de sexe ou quoi que ce soit dans mes propres romans. Disons que moi, c'est le problème par rapport à la violence qui m'interpelle, étant donné que les mondes dans lesquels je jette mes héros sont quand même des mondes violents. Il y a souvent des guerres, il y a des conflits, il y a des policiers extrêmement répressifs, etc. Mais j'évacue le problème dans la mesure, enfin je me l'évacue à mes propres yeux, en fait, dans la mesure où je n'ai jamais de personnage méchant, vraiment. C'est plus une société, une globalité, des groupes de policiers, des armées, etc., qui vont être confrontés aux héros. Il y a vraiment des batailles, il y a des morts, il y a des tas de choses comme ça autour de mes vaisseaux spatiaux, mais il n'y a jamais un seul personnage qui incarne vraiment la méchanceté, la cruauté, etc. Ils ont des chefs, ces gars-là, je leur donne des noms, mais c'est pas un personnage en lui-même qui va se confronter aux héros. Et à propos de la vie des personnages, le fait de rendre les personnages vivants, dans mon roman Les Oubliés de Vulcain, je voulais mettre une nuée ardente à la surface de la planète entièrement volcanique. J'avais pris conseil auprès d'un scientifique, un professeur en volcanologie, qui m'a dit « pas de nuée ardente ». J'ai dit « si, j'en ai besoin d'une ». Il me dit « mais vous savez, non, pas de nuée ardente, mais si j'en veux une ». Alors il me dit « mais pourquoi vous en voulez une ?» J'ai dit « pour tuer un de mes personnages ». Et alors là, il m'a dit « mais enfin, pourquoi vous voulez en tuer un ?» Et je vous jure, la réponse est venue comme ça, spontanément. J'ai répondu « pour que tous les autres aient l'air vivants ». Et alors là, il a réfléchi, moi aussi du coup, et il m'a dit, j'avais jamais pensé à ça, que s'il n'y avait pas de mort dans les romans, ça ne donnait pas l'impression que les autres étaient vivants. J'ai dit, c'est logique finalement, il y a des prises de risque, il faut que de temps en temps, il y ait aussi des victimes. Enfin, et donc, je le répète toujours, je me répète souvent. prendre les tables rondes là-dessus. Moi, je tue le moins important des plus importants. Je fais deux colonnes, les personnages importants, une autre, les personnages moins importants. Celui que je ne sais pas où placer, c'est celui-là que j'élimine. Je sacrifie celui-là. Il est suffisamment connu du lecteur pour qu'il manque un peu au lecteur qui sentira une certaine empathie avec son décès. Et puis en même temps, il ne manquera pas à moi pour aller jusqu'au bout de l'histoire.
Il va manquer beaucoup aux héros.
Et il va manquer beaucoup aux héros, oui, voilà, c'est ça. Et quelquefois, dans Les Oubliés du Quin, le sacrifice du petit compagnon du héros, ou dans Charlex, pareil. Dans Charlex, je ne les ai pas ramenés. Dans Les Oubliés du Quin, il y a un système de clonage, c'est ça la science-fiction. On peut se permettre de tuer un personnage et de le ramener après. Ça donne une liberté aussi qui est intéressante. Mais oui, c'est ça, il faut qu'ils aient l'air vivants pour qu'il y ait une identification du lecteur au héros.
Les stéréotypes, on va pas le dire aussi, parce que moi j'ai un bouquin que n'avait personne à voulu, donc peut-être qu'il est mauvais aussi, mais je me suis amusé en sachant que j'allais brûler les ailes, parce que le héros qui est absolument sympathique au début et devient un parfait salopard à la fin. Quoi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas un éditeur qui m'a pardonné. Quoi. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, ce mécanisme-là m'intéressait. Le héros s'aigrit de plus en plus au point de vraiment devenir quelqu'un de très très méchant. Donc on n'aime pas ce genre de.
Mais c'était pas un roman jeunesse.
Ah donc.
Oui, c'était un.
Oui, je reprends ce que disait Alain sur en fait, le bon sens. C'est vrai que j'ai jamais eu non plus de problème de censure parce que le roman jeunesse ou la BD jeunesse s'adresse à. Spontanément en l'écrivant, j'ai l'impression de parler à un enfant de 12 ans ou 8 ans, et donc je lui parle en écrit comme je lui parlerais pour de vrai, tout simplement. Et quand je parlais à mes enfants à 12 ans, ben, si je parlais de sujets sérieux, j'allais employer, on pouvait parler de tous les sujets, mais on employait des métaphores, on se simplifiait, ou au contraire, on essayait d'expliquer avec des émotions, etc. Et donc j'écris comme je parlerais à un enfant de cet âge-là, c'est-à-dire que je pense qu'on peut parler. Si on explique la mort à un de nos enfants, on va le faire de sa manière. Voilà, je ne sais pas, battre la mort, et bien voilà ce que ça veut dire. Et bien dans un roman, on va faire pareil. Et je pense aussi qu'on parle à l'enfant qu'on était, ou qu'on est encore, et donc on va parler à soi-même aussi, comme ça.
Merci beaucoup. Je voulais savoir avant de conclure s'il y avait des questions dans la salle. Oui.
Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Moi, j'avais juste une question, vu que c'était extrêmement intéressant la manière dont vous avez abordé la science-fiction, comment vous l'avez découvert. Et j'aimerais savoir comment vous concevez la littérature jeunesse de demain. Quel serait le genre qui pourrait faire le même choc que vous avez vécu en tant que jeune? Est-ce que vous avez une idée un peu de vers quelle direction pourrait prendre la littérature jeunesse de plus tard?
Je vais bien répondre, ça peut te faire rire. Bon, moi, je suis un adepte de la disparition des livres. Donc, je pense que plus tard, il y aura des tablettes holographiques et que l'auteur ne deviendra qu'un rouage, important, mais ne perdra sa spécificité d'être seul face à sa création, parce qu'il travaillera forcément avec une équipe de créateurs derrière. De la Supra BD qui introduira de la littérature augmentée, il y aura des animations intérieures, ça pourra. Donc il y aura peut-être 10 pages à lire et d'un seul coup, avec son doigt, il appuiera et pof, il y aura une petite séquence animée, quelque chose comme ça. Donc un bouleversement total parce que la création, ça coûtera très cher. Donc l'éditeur, suivant la notoriété, dira toi, tu es une nouvelle auteur, je te donne une animation. Toi, tu es un auteur confirmé en la 5. Donc, toi, tu partiras dès le départ en sachant que tu as 5 animations. Donc, ces 5 animations-là, ça va influencer ta création parce que tu vas les répartir tout le long de ton livre. Et tu diras, bon, alors là, à partir du chapitre 2, il y aura cette animation. Donc là, je vais faire une bagarre parce que avec l'animation, il va pouvoir montrer 5000 soldats qui sont en train de se battre. Et puis après, tu reviendras. Donc, toi, il y aura vraiment une interaction. Je pense, voilà, je ne peux pas t'expliquer quel va être le genre qui va tenir, mais je peux t'expliquer, de, à mon avis, le fait que l'auteur ne sera plus seul.
Je l'ai déjà vécu avec la fille d'un couple d'amis qui, à 4 ans, était assis sur le canapé avec un iPad. Je m'approche d'elle et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» Elle me dit « Je lis. » Et je regarde et je vois sur l'écran un loup dans le bois, la lune au-dessus, ça bougeait, c'était animé. Je lui dis, et vraiment c'était stylisé, et je montre l'animal et je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est un loup. Tu connais le loup? Elle appuie sur le loup, tout, ça ouvre une fenêtre, et là, il y avait du son, le hurlement du loup, la louve, les petits louveteaux, etc. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce loup? Toc, elle referme la fenêtre, poum, elle pose son doigt là-dessus, en la fenêtre suivante, avec autre chose, le loup en situation. Il n'y avait absolument, pratiquement pas de mots à 4 ans, enfin, c'était des programmes prévus pour les enfants comme ça, mais de cet âge-là. Mais c'était, mais la gamine, elle m'a dit, je lis. Et donc, il y a quelque chose, il y aura des choses qui seront différentes.
Tu lis un album jeunesse, il y a très peu de textes, où les gens lisent, oui, mais on peut lire des images. Voilà.
Et moi je pense qu'il faut, enfin, Alain et moi, on est convaincus qu'il ne faut pas rester accroché aux textes traditionnels. Il y aura toujours des livres papier, il y aura toujours des amateurs de livres papier. C'est exactement comme la télévision, n'importe quel cinéma. Les livres numériques ne tueront pas le livre papier, nous on en est intimement convaincus. Ce sont des choses qui seront complémentaires. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'au début du XXe siècle, la classe de la bourgeoisie ne voulait pas du téléphone, les bourgeois ne voulaient pas de téléphone chez eux, parce qu'ils ne voulaient pas répondre à un appareil qui les sonnerait, comme on sonne des domestiques. Donc, ils sont restés à l'idée de transmettre des messages par un autre système de courrier, etc., que par un téléphone. Quand on voit que maintenant, il y en a absolument dans toutes les poches, compris des enfants pratiquement, voilà, sont des outils qui ne sont pas à rejeter en disant on va aller rétro-satanas. Il faut au contraire s'adapter pour continuer à présenter aux jeunes des offres dans ce domaine-là qui sauront de toute façon les amener. Et ça passera toujours par l'écrit. Des scénaristes, il n'y a pas un seul film où il n'y a pas un énorme travail écrit, ça passera toujours par l'écrit. Donc il faut que de ce point de départ d'écrit, en passant éventuellement par l'image et le numérique, on continue à ramener quand même les jeunes à l'écrit à la fin, parce que, et à leur propre production d'écrit aussi.
Oui, ben, le seul truc, on s'en fout que ce soit papier ou pas ou autre chose, le seul truc c'est qu'il faut que ça soit déclencheur de leur propre imagination. Et là, ce truc qui me fait un peu peur dans ces choses animées et tout, c'est que lorsqu'on vous balance des images, vous n'avez absolument pas ce travail de l'imaginaire. C'est le point qui me gêne vraiment. Et s'imaginer une bataille et la voir, c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est ça. C'est le point. Sinon, le support, on s'en fiche. Ça sera pas mal de partir. C'est quand même bien maintenant de pouvoir partir en vacances avec 20 000 livres dans la bagnole. Bon, voilà. Bon, moi, je vais partir avec le carton, c'est pour ça que j'ai une Volvo Break, mais c'est fini, quoi, ça. Donc voilà. Puis, la science-fiction, elle est là. Tout ce qu'on a fait en 25 ans de carrière, ça tient dans n'importe quelle vulgaire clé USB qu'on peut s'attacher. Nous, on peut partir avec toute notre œuvre autour du cou, quoi. Donc c'est ce côté-là qui est intéressant. Mais le support papier, moi je pense que le papier, quelle est la valeur ajoutée d'un livre de poche, sinon il n'a pas besoin d'électricité pour le lire. Ça, c'est, donc il est moins fragile quelque part que bon, plus on monte dans la gamme, plus on est fragile, hein, ça c'est sûr. Mais vraiment, c'est ça qui me pose question, moi, c'est est-ce qu'on va, les nouvelles technologies vont continuer à développer l'imagination des enfants? Ils vont être que des réceptacles sans
Moi j'irais exprès pour choquer un peu que la nouvelle littérature de genre c'est les jeux vidéo. C'est-à-dire que le genre ça a plus d'importance maintenant parce qu'en effet beaucoup de gens, on peut les mélanger, c'est pas un problème de ce qu'il y aura comme histoire. Ce qui change, c'est la manière de raconter les histoires. Et il y a une dame qui est venue en dédicace tout à l'heure qui. Il fait acheter des bouquins pour sa petite fille et on ne comprend pas, on discute jeux vidéo. Elle dit non, ma fille, jamais elle touche aux jeux vidéo, mais quel dommage! Donc, la création. créativité, là, elle est rejetée en ce moment. Enfin, de la même manière que les gens rejetaient la science-fiction et rejetaient avant le jazz et rejetaient avant, etc., etc. En ce moment, les jeux vidéo racontent des histoires qu'on ne voit nulle part ailleurs. Comme la science-fiction racontait des histoires qu'on ne voyait nulle part ailleurs, comme des rues fantasy, voyages, etc. Mais quelle criminalité de couper son enfant d'un des modes les plus précieux, les plus créatifs, les plus nouveaux de créativité aujourd'hui et de manière de raconter des histoires. Et je trouve ça, mais c'est exactement comme les parents qui m'interdisaient les ABD. En plus, est-ce qu'ils savent pas, enfin, ils ont lu des bouquins de psychologie, est-ce qu'ils savent pas s'ils interdisent les jeux vidéo à leurs enfants? Évidemment que leurs enfants réfléchissent un peu. Donc, il va y avoir des nouvelles manières de raconter des histoires. Certaines vont passer par l'écrit, d'autres vont passer par le jeu. Je pense aussi au renouveau des jeux de plateau qui racontent des histoires. Il va y avoir des histoires interactives, il va y avoir des histoires qui mélangeront, donc l'écrit, le cinéma, etc. etc. L'imaginaire, il n'y a jamais autant de gens pour raconter des histoires. Regardez les web-séries. Regardez les webcomics, regardez tous les gamins qui font des trucs sur Internet avec les chaînes YouTube, des trucs, etc. Mais la créativité explose. Donc, ça c'est ma réponse à toi, la créativité explose avec les nouvelles technologies. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de créer, et les gamins, et par gamins je veux dire de 7 à 77 ans, se jettent dessus et créent des tonnes de trucs avec des médias complètement différents. Et il n'y a jamais eu autant de création justement de jeux, et donc, il y a des univers dans les jeux vidéo qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Je reprends les web-séries, enfin, je veux dire, c'est une manière de raconter des histoires, encore une fois, qui est complètement différente. Et je crois aussi beaucoup aux histoires interactives. Le nouveau genre de demain, c'est méta. C'est la manière de raconter des histoires de genre, je pense.
Il y a des gens qui attendent la conférence suivante.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Savoir si ça vous arrive que les éditeurs vous demandent des jeux dans une collection. Par exemple, Soumi chez Siro, ce sont des textes magnifiques. Est-ce que c'est facile d'écrire? Est-ce que c'est un genre J'aimerais savoir si vous, on vous a demandé déjà d'écrire dans cette collection-là.
Bon, j'ai publié en Soon, mais pas en Mini-Soon. Je connais des auteurs qui ont publié en Soon et en Mini-Soon. En général, c'est effectivement les directeurs de la collection qui sollicitent les auteurs et qui restent complètement souverains sur l'acceptation ou le refus du texte. Ce sont des auteurs confirmés qui ont déjà publié des romans. C'est rarement des auteurs débutants qui commencent par des tout petits textes. Mais c'est en tout cas pour Mini-Soon, c'est Denis Guillot, le directeur de la collection, qui sollicite les auteurs pour faire les petits romans. Sans leur donner aucune exigence de la thématique ou quoi que ce soit, le volume simplement, ça doit faire.
Par contre, ça intéresse, il y a des choses.
Une toute dernière.
On connaît pas, donc vous ferez bien le genre dessiné, hein?
Non.
Moi, j'en écris, mais je ne dessine pas.
Vous savez, des tuyaux nous donner sur montage, comment bien construire un scénario cohérent avec un bon rythme et tout cela.
Oui, mais peut-être pas là maintenant, parce que ça nous prendrait 15 jours. sur une autre table ronde avec un télé. Ouais. Mais là, genre, c'est très large.
Merci.
Désolé, on va devoir conclure. Il va y avoir un concert de musique juste à côté avec des enfants qui jouent des instruments. Donc, si vous voulez assister à ça, vous êtes les bienvenus. Merci encore aux auteurs d'être venus, d'avoir joué au jeu.
Merci, Sophie.
Et puis, continuez. Merci beaucoup. Continuez à enchanter nos enfants et l'humanité. Merci.
Et merci beaucoup à tout le monde.